On n'entend rien dans les casques. Non, on s'entend pas.
Peut-être on s'en tape. Hein.
Tu peux nous mettre les retours, tu nous entends là? Tu peux nous mettre les retours en haut là? Mais non. Ah, moi j'entends un peu d'un côté là.
Quoi? Mais on peut pas entendre Polo sur les retours là? Au-dessus?
Non, c'est pas grave sinon.
Ça devait être un truc que t'as appuyé au début là, non? Non, bon, bah. C'est...
Tant pis! Pas de casque, rien!
Non, mais si, vas-y, ça va marcher.
Non, non, je vois pas pourquoi c'est bizarre. Ah oui, tu veux dire.
Vous écoutez,
oui,
Radio.
Oui, mais pourquoi
plus,
on.
Il est 16h.
Pourquoi on entend pas là?
Là, c'est bipolaire. Le générique.
Dernier avertissement concernant l'espace public. L'espace public est un espace neutre, c'est-à-dire que toute manifestation d'existence singulière y représente une atteinte à l'intégrité d'autrui. Tout sera désormais mis en œuvre, mobilier urbain, décors adéquats, contrôle continu, pour rendre impossible... Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qui se passe?
On va carrément réunion, ce n'est pas une émission de radio, c'est un pli, un espace d'apparition, c'est un iceberg, un exercice de perception, un transformateur, un accélérateur, une pièce dans un mouvement. Pop, 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 dimanche 6 avril, il est 16h, une nouvelle de Vacarment Réunion, encore plus à l'arrache, encore plus présent, on est dans les studios et aujourd'hui on est trois.
Ouais,
il y a moi, Jacques, et il y a Zach à ma droite, ça va être le gros bordel, vous avez déjà capté le délire. Alors Zach, tu voulais nous dire un petit mot pour nos fidèles auditeurs, nouveaux auditeurs
qui pensaient entendre leur voix. Ouais, effectivement.
Qu'est-ce qui s'est passé? Explique-nous un petit peu ça.
Eh ben, je pense que c'est un sort mystique, quelque chose qui nous arrive en travers de la tronche. On a complètement perdu le montage qu'on s'est cassé le cul à faire ce matin. Voilà.
Ah, c'est-à-dire qu'on a passé... Vous avez un peu trop joué avec la magie noire du numérique.
Ouais, c'est ça. On a passé 2 heures hier pendant la manifestation à prendre des sons, là. Plus, je pense, 2h30, 3h ce matin à monter tout ça. C'était beau, c'était propre. Ça durait 12 minutes. Et on devait vous le passer là et ça a disparu.
12 minutes, un peu comme les 12 apôtres. C'était un chiffre biblique. Vous avez un peu joué avec le sort.
Ouais, on a joué avec le sort, c'est sûr. C'était de toute façon contre la colère biblique aussi, hein. C'était, voilà, pour faire un peu état du contre-jour de colère qu'il y a eu hier. Et voilà, ça a disparu. Et alors effectivement, on est hyper désolé par rapport à tous les gens qui s'étaient dit on va vous entendre, enfin on va s'entendre à la radio demain, ça va être hyper chouette, il va y avoir un retour. Peut-être qu'on le retrouvera dans les arcanes de cette clé numérique.
Et à ce moment-là, on pourra le mettre sur notre magnifique blog. Mais voilà. Ça rappelle plus pour le blog tvnr.noblogs.org, bien sûr.
Tout à fait.
Et toi, Jack, tu peux nous en dire un petit peu sur ta déception, la perte de ce montage. Est-ce que tu es prêt à faire des bruitages pour nous rendre un petit peu l'ambiance de la journée d'hier?
Alors, ça y arrive pas du tout, je fais des petits bruitages. Ah, il va falloir qu'on mime le montage d'hier.
Ouais, c'est ça.
On marchait dans les rues, ça faisait pire. À un moment, il y a une espèce de fumée, avec plein de fumée qui a explosé.
La fumée noire.
Il y avait des filles qui gueulaient, c'était le bordel, il y avait de la musique, il y avait de la grosse disco, il y avait Daddy Cool qui gueulait en gros sur le char.
Daddy Cool.
Bon, il y avait surtout plein de gens qui, pendant le concert qui avait place Wilson, là, il y avait plein de gens qui parlaient un peu de pourquoi ils étaient là, de qu'est-ce qu'ils foutaient là, de c'était quoi leur rage contre le fascisme, etc.
On est un petit peu en avance sur le fil, du coup, je me permets d'interrompre.
Ouais, interromps-moi.
Même si on a malheureusement perdu notre bande-son, On vous fera un petit résumé, un petit récit de la journée d'hier un peu plus tard. Et pour l'instant, pour recontextualiser un peu de quoi on va parler, qu'est-ce qui se passe, etc., on va vous passer un extrait qu'on a trouvé sur internet qui pose un peu l'ambiance de qu'est-ce que c'était le jour de colère du 26 janvier. Puisque à la base, donc, c'était le jour de colère organisé par les réacs, les intégristes, les fachos de tout poil. Voilà. Et donc, on a assisté à une manifestation un peu décomplexée avec des slogans négationnistes, antisémites, homophobes qui étaient scandés dans les rues par des gens encapuchonnés, etc.
Aussi des gens qui avaient la tête tout à fait.
Et aussi qu'il y avait des gens qui n'avaient pas du tout la tête encapuchonnée. Enfin, bref. Et du coup, on vous passe un petit extrait audio. Pour resituer tout ça.
Ah, et non, il arrive.
Il arrive toujours, il a un petit peu de mal à arriver.
Et tandis que mon micro vient de se brancher enfin, là, Régis attend un petit peu pour nous balancer ce petit extrait.
Donc, c'est un petit extrait qu'on a
trouvé sur internet et qui est censé expliquer un peu qu'est-ce que c'était.
Le jour de colère qu'il y avait eu le 26 janvier à Paris. Du coup, des sons qui avaient été pris à la manif ce jour-là, qui avaient fait un petit peu polémique, on les entend un petit peu tous les blaireaux gueuler des vieux slogans contre les homos, contre les étrangers, contre plein de choses, quoi. Mmh. Et là, tandis qu'on a perdu Zach qui va aider la Régis.
Du coup, on peut parler un peu directement. Ah voilà, ouais. On m'indique que c'est bon, on a du son. Donc on vous envoie la bande son du jour de colère du 26 janvier à Paris. Et
nous, on va se caler un peu pendant ce temps.
C'est bon, c'est parti.
Eh ben non, toujours
non,
pas.
Ça marche toujours pas.
Bon, peut-être.
Alors, le jour de colère, qu'est-ce que c'était le jour de colère? Donc, 17 000 participants selon la police, plus de 100 000 selon les organisateurs. C'était donc une manifestation qui était organisée.
Notre colère est légitime et déterminée, ce qui ne l'empêche pas d'être pacifique. En participant au jour de colère, nous savons tous que nous marcherons à côté de personnes qui n'ont pas les mêmes convictions que nous. Nous l'acceptons car nous savons que jour de colère est un rassemblement de collectifs et de citoyens et non un mouvement institutionnel que chacun ne représente que lui-même et sa propre colère.
Tous réunis avec toutes les couleurs, tout le monde, contre ce qui est en train d'arriver, contre la LGBT, contre la LICRA, contre le mariage gay, pour la manif pour tous.
Journaliste collabo.
Devant toi, et nous voulons un coup d'état, oui, un coup d'éclat plutôt. Vivement, vivement, vivement le putsch. Vivement, vivement, vivement le putsch. Vivement, vivement, vivement le putsch.
Nous faisons, nous sommes venus pour faire, avancer l'idée putschiste, c'est-à-dire que seule l'armée dispose des moyens pour faire tomber le régime. C'est parce qu'on est justement qu'on refuse cette violence horizontale que nous appelons au coup d'état militaire, parce que nous reconnaissons à l'armée, aux gendarmes, aux policiers le monopole de la violence légitime d'État. Et c'est pour ça que nous leur demandons de se bouger le cul tout simplement pour restaurer la souveraineté de la France de façon urgente. Sinon ça va être la guerre civile et à ce moment-là nous.
Oh! forcément d'accord avec tous les gens qui sont là en même temps. Je vois beaucoup de gens avec qui je suis plutôt en confrontation. Et bon, je trouve ça bien que les gens quand même sortent dans la rue et s'expriment. Je trouve que c'est assez sain quand même. Mine de rien. Moi, je suis pour que tout le monde s'exprime.
Apparemment, on a des officines du Front National ou de... enfin, différentes officines d'extrême droite qui sont derrière, ou les régionalistes aussi. Moi, ça me pose pas de problème. Je vois à peu près qui c'est, mais je m'en fous complètement. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller faire de la pédagogie à la population, chanter la Marseillaise et rappeler simplement que il y a des choses plus importantes que leur connerie à défendre. Chacun vient avec son message et moi, je viens avec la mienne.
Ce combat est un combat patriote. C'est pourquoi nous vous rappelons que seuls les drapeaux français et les drapeaux des régions de France sont acceptés pour accompagner les pancartes, drapeaux et banderoles exprimant une revendication liée à votre colère.
Ok, alors c'est le retour de Vacarme en Réunion après cet extrait audio du jour de colère du 26 janvier qui a lieu à Paris. On va reprendre en essayant de d'être un petit peu moins brouillon. Du coup, qu'est-ce qu'il s'est passé ce week-end à Dijon? Est-ce que Jack, tu peux nous resituer un peu la manifestation du jour de colère, l'édition numéro 2 du jour de colère?
Ouais, si on veut parler aujourd'hui de tout ça, c'est parce que il y a eu hier à Dijon la saison 2 du jour de colère, parce que là le son qu'on vient d'entendre, c'était ce qui s'est passé à Paris le 26 janvier. Et l'appel du premier jour de colère. C'était un appel qui a été fait sur une base hyper large, a priori hyper consensuelle, de vouloir la démission du gouvernement. Et c'est pour ça que leur gros slogan d'entrée, etc., c'était « Hollande démissionne ». Et sur leur site, on trouve en fait l'espèce de liste des raisons pourquoi ils veulent que le gouvernement démissionne. Et du coup, ils lui reprochent...
Je peux lire la liste, si vous voulez.
Ah bah ouais.
Ils disent « L'objectif, c'était donc de faire coaguler les colères ». Donc ils ratissent large avec toutes les colères, et en fait après ils précisent en disant que le pouvoir n'écoute pas le peuple, matraque les contribuables, enterre notre armée, libère les délinquants, déboussole nos enfants, pervertit notre système scolaire, réduit nos libertés, assassine notre identité et détruit nos familles. Du coup, après avoir essayé de ratisser large en parlant de colère, en disant qu'on va rassembler toutes les colères, tout ce qui s'oppose au gouvernement, tout ce qui est dégoûté de l'époque actuelle, il y a quand même des slogans assez nets, des idées assez nettes qui se dessinent, genre restauration de l'armée, défense de la prison, critique du système scolaire et de l'introduction de la théorie du genre. Par exemple, on a entendu pas mal parler de cette polémique. Sur l'identité aussi, donc il disait assassiner notre identité, et puis surtout la défense de la famille, parce que la défense de la famille, c'est avec l'opposition au mariage pour tous, c'est quand même aussi une des racines de ce mouvement un peu réactionnaire, un peu d'extrême droite qui nous vient depuis l'année dernière, qui vient un peu parcourir les rues depuis le printemps français, la manif pour tous, etc., et qui est une sorte d'évolution. Le jour de colère, c'était une sorte de nouvelle version de cette vague là un petit peu, quoi.
Du coup, avec plein de gens qui viennent un peu des milieu catholique, etc., quoi, je pense.
Il y avait aussi toute la vague des dieudonistes là qui surfaient sur cette espèce de rassemblement là. Tous les gens qui c'était pendant l'espèce de scandale autour de Dieudonné qui s'était fait interdire ses spectacles, etc. Et il y avait tous les gens là qui étaient voilà anti-système, ou je sais pas comment ils se réclamaient là. Enfin tous les voilà l'espèce de dieudonistes qui venaient faire des quenelles. Ce qui fait que dans cette manifestation du 26 janvier là se retrouvaient à la fois des espèces de cathos intégristes blancs, je sais pas quoi, pure souche là j'imagine, c'est comme ce qui
ouais, français de souche.
Français voilà, et à la fois il y avait des espèces de gars des cités, machin truc qui venaient faire des quenelles.
Ouais, avec cette ambiguïté
d'amalgame.
Où Dieudonné appelle par exemple sur internet à aller participer à la manif, enfin au jour de colère, en disant faites pas attention aux rumeurs qui dit que la manif serait islamophobe, quoi. Du coup, lui il appelle en disant voilà, bien sûr que l'islam est la bienvenue dans cette manif. En fait, pendant la manif, la plupart des slogans qui sont chantés sont de type la France aux Français,
étranger rentre chez toi,
islam hors d'Europe, des trucs comme ça, quoi.
Du coup, de nazis, quoi.
On pense qu'une des grosses grosse explication de pourquoi il y avait 17 000 personnes à Paris ce jour-là, c'est aussi parce qu'il y avait vraiment une hyper large ambiguïté sur qu'est-ce que c'était que ce rassemblement, quoi. Et que sûrement il y avait plein de gens qui y sont allés effectivement pour exprimer leur colère, et enfin, il y avait pas une base très forte, quoi, entre tous ces gens-là, quoi, de qu'est-ce qu'ils voulaient. Enfin, c'est pas très grave, mais ça faisait cohabiter à la fois des racistes et des étrangers qui avaient peut-être pas de papier ou je sais pas quoi. Enfin, un truc hyper chelou comme ça qui fait que ça tient parce que c'est des appels internet, en fait, ce genre de choses, quoi. Je pense que si tu te rassembles une fois dans une pièce entre tous les gens qui ont essayé de lancer ça, tout de suite tu palpes que bon, tu veux pas la même chose, quoi, et que tu peux pas t'entendre, quoi. Mais comme c'est des appels internet qui circulent uniquement sur les réseaux sociaux, en fait, ça tient, quoi. Il y a un espèce de coup de chance comme ça qui fait que tout d'un coup, il y a, je sais pas, 50 000 personnes dans la rue à Paris.
Après, les partisans du donné, on sait qu'il est proche de Alain Soral, espèce d'ancien gauchiste qui est passé à l'extrême droite, qui se dit national-socialiste, quoi, un peu comme les nazis à l'époque.
à la bonne vieille époque.
Ouais, du coup il joue à fond depuis toujours sur une espèce d'amalgame aussi autour de l'antisémitisme, etc. Mais où on a l'impression qu'il se contrefiche d'une quelconque cohérence politique ou éthique et qui bon voilà, c'est sûr qu'il y a une mouvance, enfin qui se rapproche plutôt d'une espèce de mouvance, enfin Alain Soral en tout cas un peu à l'extrême droite, mais que ça leur va très bien de créer du bordel ou créer un peu de l'agitation, de faire un peu de l'agitation politique sans chercher forcément, enfin en cherchant plutôt le scandale plutôt que de porter des idées justes ou afficher une cohérence politique et à réaliser dans les faits une ligne politique un peu claire ou un peu enviable, quoi. Du coup, ouais, il faudra voir. Parce que du coup, il y avait la deuxième édition, c'était hier, mais c'est aussi aujourd'hui.
C'est hier et aujourd'hui, ouais. L'appel, il était national.
La plus grosse manifestation aujourd'hui, ça sera sûrement à Lyon.
En fait, la première manifestation, elle était que à Paris, et c'est aussi pour ça que c'était un énorme truc de 50 000 personnes. Et là, leur coup, c'était de se dire, oh putain, on a vraiment été beaucoup à Paris. Du coup, on fait une deuxième édition qui est décentralisée, et du coup, on appelle à des manifs le même week-end dans toutes les villes de France. Tous les gens qui veulent organiser une manif, ils le font dans leur ville, quoi. En fait, ça a été plutôt un gros échec, quoi, ce week-end. La manif à Paris, elle est en train de se jouer en ce moment. Mais
on est même pas sûr qu'il y en a une à Paris, non?
Ah oui, non, pardon, ouais, je pense qu'il y en a pas à Paris, oui, je dis ça, mais il y en a aujourd'hui, il y a des manifs qui sont en train de se dérouler à Lyon, à Nantes et à Bordeaux, je crois, aujourd'hui. Non, à Lyon, à Nantes et à Montpellier pour aujourd'hui. Et hier, toute la journée, il y a eu des manifs à Toulouse, à Lille, à Caen, à Dijon, du coup, et à Bordeaux. Du coup, ça fait en fait que 8 villes qui sont appelées. Ce qui est quand même pas énorme, quoi. Et à Paris, il y a rien. À Marseille, il y a rien. Il y a plein de villes où il y a rien, quoi. Et je pense que dans la plupart des villes, il y a même des villes où ça a été annulé, où ils ont pas trouvé d'organisateur. C'est une espèce de gros flop, en fait, leur.
Il semblerait que même à Dijon, de toute façon, ils aient mis vachement de temps à s'organiser.
Ouais.
Et que finalement, ils se soient pris, un peu à l'arraché, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait pas tellement de gens hier, en fait, ici à Dijon.
Voilà, on parlait de 50, 60 personnes. Qui est donc principalement des vieux. Il y avait une banderole du parti de la France, il me semble, et puis quelques types qui ont débarqué masqués avec le masque des Anonymous. Donc voilà, encore jouant une espèce de confusion autour du rejet d'un système, on ne sait pas trop quoi. Et du coup, quelques personnes masquées avec peut-être des pratiques un peu plus musclées entre guillemets. Voilà, mais en gros, c'était plutôt un échec, puisque ce qui a été organisé en face, les gens étaient beaucoup plus nombreux, 200, 250 personnes. Et voilà, du coup, il faudra voir, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Jack, de comment ce mélange entre les dieudonistes, les différentes branches de l'extrême droite, ça a pu rassembler autant de monde à Paris, voir si, au final, après aujourd'hui, ça tient quelque chose, ou si c'était juste une manifestation un peu éphémère, une espèce de rejet qui trouve pas trop d'expression porteuse de...
Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que à Dijon, de toute façon, on s'attendait à ce qu'il soit faible parce que il y a pas un terreau particulièrement conservateur ou fascisant ici, quoi.
Bah, c'est-à-dire qu'il y a une longue tradition aussi de lutte contre le fascisme, enfin depuis un certain temps, enfin ces formes un peu classiques, là, formes un peu classiques du fascisme. Mais voilà, il y a pas de liberté, effectivement, il y a pas de liberté d'agir pour le fascisme à Dijon, quoi, depuis un certain temps.
Du coup, on s'attendait à ce que plutôt ce soit un échec, le rappel à Dijon, mais il faut dire qu'en fait, dans toutes les villes, ça a été plutôt un échec. Quoi, parce que, en tout cas, pour ce qui est des rassemblements d'hier, il n'y a aucune ville où leur rassemblement il était supérieur à 100 personnes. Quoi. Parce que ça, tout ce qu'on lit de descriptions ailleurs, ça ressemble à ce qui s'est passé à Dijon, quoi, ce que tu viens de nous décrire.
Ouais, bah, y a même des villes où c'était carrément ridicule, comme à Toulouse. Où
ils étaient 12, d'après le journal. On peut estimer qu'ils sous-estiment le journal, mais ils disaient une douzaine de personnes. Ouais. À Toulouse, apparemment, c'était vraiment ridicule. Ils ont encerclé une place avec des barrières. pour protéger leur rassemblement. Et du coup, ça faisait une place cernée de barrières, comme ça, avec au milieu une quinzaine de personnes, quoi.
Je ne veux pas se sentir très à l'aise. Ouais.
Dont la moitié avec le crâne rasé, des t-shirts anti-antifa. Du coup, je pense que c'était vraiment, vraiment ridicule, quoi. Bon, du coup, plutôt gros échec, quoi, partout pour hier. Et aujourd'hui, je sais pas pour la manif de Lyon, où sûrement il y aura un peu plus de gens, mais bon, ils s'attendent pas à beaucoup mieux, je pense, quoi. Et du coup, dans toutes les villes, comme t'as commencé à le dire pour Dijon, dans quasiment toutes les villes où il y a eu leur rassemblement de jour de colère, il y a eu des sortes de contre-rassemblements de gens qui voulaient pas du tout qu'il y ait qu'eux qui s'expriment ce jour-là, quoi. Et du coup, des pique-niques, des manifestations antifascistes, plutôt ce genre de forme-là, quoi, partout. Et partout, ils étaient plus nombreux. Partout, ils étaient environ, je sais pas, 250, voilà. Mmh. Voilà. Et du coup, à Dijon, il y a eu sûrement, je pense, de tout ce que j'ai lu, le plus gros rassemblement anti-jour de colère, quoi, qui ait pu avoir en France. Je sais pas, on était. En fait, c'est difficile de dire combien on était parce que le rassemblement.
Il y a eu plusieurs moments dans la. Ouais, c'est ça. Il y a eu plusieurs moments dans la journée, quoi. C'était un rassemblement qui était appelé à midi place Wilson et puis qui a duré jusqu'à 18h à peu près, c'est ça,
ouais,
place
c'est
Wilson.
Ça.
Et donc durant ce moment-là, il y a eu pas mal de temps différents. Mm. Il y a eu ce temps un peu du rassemblement sur la place et de la musique, etc. L'espèce de fête qui était un peu organisée là, sur la place en statique, quoi, qui bougeait pas, donc avec des chamboultous, une maroquinard, une espèce de connerie comme ça, des concerts, de la bouffe.
Ouais.
Et c'était un moment plutôt
fantastique, couscous.
Un fantastique couscous, ouais,
fait organisé par le Food Mad Bombs.
Ouais. Et voilà, donc il y avait toute cette espèce de temps là où, pour le coup, là, on était, je sais pas, effectivement 200, peut-être au plus fort de ce moment-là.
La place Wilson, elle est bizarre, quoi, elle est immense, du coup, tu te sens peu nombreux, mais je pense qu'on devait être à peu près 200, ouais.
Et puis après, ça, c'est parti du coup en manifestation, et où là, on était bien plus dans les rues, en fait. Il nous a semblé plutôt qu'on était entre 350-400 personnes. À manifester dans la rue, quoi.
Ouais.
Et là, ça a pris un aspect un peu plus éclatant, non?
Un peu plus flamboyant, tu veux dire?
Un peu plus flamboyant, ouais, c'est ça.
Ouais.
On a vu pas mal de fumée, y avait des pétards et tout ça, et puis ça a commencé à se tendre un petit peu quand on arrivait au contact des CRS et des gendarmes qui étaient positionnés un peu partout dans le centre-ville.
Je pense qu'il faut expliquer pourquoi ils étaient là, quoi.
Ouais.
L'appel de cette journée-là, elle était pour faire une grande fête, quoi. En décidant que eux ils faisaient une pauvre manif dans des codes hyper politiques et que ce qu'il y avait à déployer en face c'était d'autres manières d'habiter la rue, c'était une autre forme de colère, quoi, qui soit pas une colère réactionnaire rigide un peu. Du coup, c'est pour ça que c'était une grande fête populaire, quoi. Et du coup ça a commencé avec tout ce qu'on vient de décrire là, et quand on apprend en fait que eux ils vont dans le centre-ville pour aller se montrer un peu au centre-ville, nous on décide qu'on va aller aussi dans le centre-ville, quoi, pour pas les laisser seuls. Et du coup les flics, mais il y avait une tonne de flics hier dans Dijon, c'est hallucinant, quoi. Il y avait plein
de CRS,
des gardes mobiles,
de CRS.
Voilà, tout le monde,
ouais, surtout ils étaient répartis régulièrement dans toutes les rues du centre, quoi, pour
voilà.
Une espèce de zone tampon, quoi.
Ils craignaient vraiment qu'on aille défoncer les faf, en fait, je pense, quoi.
Ouais.
Je sais pas trop, mais
c'est sûr qu'ils voulaient prévenir tout affrontement entre les deux camps.
Ouais. Peur que Dijon, guerre civile. Je sais pas quoi. Mais...
Et effectivement, du coup, là,
ils les ont laissés. Ils ont laissé les FAF, les REAC, le rassemblement jour de colère, venir jusqu'au centre-ville et parader dans le centre-ville.
Parce qu'ils avaient un parcours déclaré aussi, du coup, voilà. Ils les laissent faire leur truc, quoi.
Puis ils sont 50 et nous,
ouais.
On est 400.
Ouais.
Donc, ça n'a pas le même impact dans la ville.
Puis nous, comme on déclare pas le parcours, parce qu'on ne savait pas trop à l'avance de toute façon ce qu'on allait faire exactement, puis que c'est pas vraiment dans nos habitudes de déclarer des parcours, on part un peu dans les rues avec une grosse sono, plein de musique, en se disant allez, on va aller voir où ils sont, on va aller prendre un peu la rue, et voilà, quoi. Et du coup, effectivement, à chaque fois qu'on fait une rue, on tombe sur les keufs qui nous empêchent de passer pour aller pour pas qu'on approche le jour de colère de trop près, quoi.
Donc ça commence par la première barrière qui est déjouée, c'est celle de Chabot-Charny, là. Ils sont en haut de Chabot-Charny, c'est-à-dire au bas de la place du théâtre, et où là, à un moment, ça bifurque à gauche, donc on arrive à les semer à ce moment-là. Et puis, toute la rue du Petit Potet est traversée, on arrive à la place des Cordeliers, et on s'engage sur la rue du Monoprix, qui s'appelle la rue... Je sais plus comment.
La rue du Monoprix. Ah
ouais,
oui,
tu
oui.
Vois,
je sais plus.
Bon, bref, et là on arrive à un croisement à la rue du Bourg et à cette rue là.
Rue Berbizet en fait. C'est la rue Berbizet qui part.
Voilà, rue du Bourg, rue Berbizet, et là les flics pour le coup nous bloquent concrètement.
Nous empêchent d'aller dans le centre-ville quoi, voilà. Parce que c'est vraiment le début du
centre-ville. Et là il y a une confrontation qu'on entendait fort bien dans ce petit montage audio qu'on a perdu. voilà, et là il y a effectivement.
C'était à la fois un moment de confrontation un peu tendu, puis c'était assez joyeux quoi. Il y avait on était dans un petit espace, du coup la musique résonnait bien, il y avait plein de confettis. C'était un gros boxon, etc. Puis ça a commencé à se tendre un petit peu avec les flics. Il y avait quelques coups de matraque qui ont plu sur les manifestants, quelques blessés.
Sur les premières rangées, ouais, c'est ça, qui se sont pris quelques coups de matraque, ouais. Mmh. Oui, voilà, et à ce moment-là, ça bifurque rue Berbizet pour repartir place Zola, pour être à nouveau bloqué devant, sur la place Bossuet, là, ouais, derrière le théâtre Dijon-Bourgogne, et voilà, pour continuer à redéambuler. Mais c'est vrai que la police nous a quand même menés, quoi, on peut le dire, que même si on était plein et qu'on a l'impression que cette journée était une victoire, on a quand même pas complètement réussi à déjouer le dispositif.
Ouais, on a quand même réussi à sacrément perturber le petit train-train du samedi après-midi du centre commercial du centre-ville commercial de Dijon, quoi, où il y avait pas mal de passants un peu interloqués qui restaient stagnés à voir en vis-à-vis les flics et puis les manifestants. Et voilà, que ça interrompait un peu le flux habituel des marchandises, la circulation entre les différents magasins, etc.
Il se dit que derrière la ligne de flics qui était place Bossuet, donc qui était le plus gros dispositif, hein, là pour le coup il y avait, je sais pas, 6 quarts de CRS qui bloquaient la rue, plus les CRS devant, plus les personnes de la brigade anticriminalité, les gens de la BAC. Enfin, bon, là, il y a une espèce de dispositif assez important. Il se dit que derrière tout ça, là, se trouvaient les fascistes. En tout cas, les gens de les 50 personnes là étaient à ce moment-là un peu en train de regarder. Et on entend une personne qui dit à ce moment-là sur le fameux reportage audio qui dit ouais, on les a vus là derrière et heureusement qu'on n'a pas pu les choper parce que sinon on les aurait dézingués. Bon, il y avait pas que des gens qui disaient ça. Il y avait plein d'autres paroles, mais en tout cas, il y avait cette parole un peu marrante là. Voilà.
D'accord.
Et du coup, le rassemblement, il a fini par retourner place Wilson. Et il y a eu un deuxième concert, non ? Et ça, il y a eu un peu de musique qui a repris.
Oui, ouais, il y a eu encore un peu de musique.
Rapidement, et puis après, ça s'est assez vite dispersé, quoi.
Et ce qui était fou, c'est qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui étaient assez jeunes, quoi. En fait, le moment de la déambulation, là, comme ça. Et au moment, il y avait pas mal de gens, quand tu parlais avec eux, qui te disaient qu'ils venaient des lycées aux alentours, ou qui étaient à la fac, ou je sais pas quoi, qui étaient là un peu pour des raisons antifascistes, quoi, des trucs comme ça. Puis tu trouvais ça cool, je pense, aussi, d'être dans la rue, qui avait plein de sons. Ouais. Voilà, quoi.
Dans ce reportage audio, il y avait plein de paroles assez chouettes, justement, de ces jeunes-là, là, qui étaient, enfin, ces jeunes, on peut dire jeunes, c'est un peu bizarre, qui étaient là, mais voilà, qui disaient qu'ils étaient là pour plein de raisons différentes. Il y avait des personnes qui disaient, ben voilà, moi je suis là pour engager mes idées, quoi, parce qu'en fait, mes idées, ça reste, c'est pas que des idées, quoi, et j'ai besoin de les concrétiser et notamment dans la rue, quoi, et voilà, il y a plein de gens qui plus classiquement disaient effectivement, on est là contre le fascisme, ou d'autres qui disaient plus classiquement, on est là pour faire la fête, et c'est hyper chouette, voilà, là, on est là dans la joie et pas dans le reste, ce ressentiment et pas dans la réaction. On réagit pas, mais on agit, et voilà. Et c'était assez chouette, tout ce qui pouvait être dit à ce moment-là.
D'accord. Pour finir, ce petit retour sur hier, non, t'as quelque chose à rajouter?
Non, c'était juste pour faire la transition avec la musique qu'on va écouter.
Bah, c'est ça aussi que j'avais lancé.
Et du coup, c'était juste pour vous faire palper un peu l'ambiance aussi d'hier. On voulait vous repasser le morceau de la rumeur qui a retenti, du coup.
Au moment où ça se bastonnait un peu avec les flics, quoi.
Ouais,
du
voilà,
coup,
c'est ça. Juste après.
C'est ça, il y avait le camion juste à côté de nous. Et voilà ce qu'on a pu entendre dans les rues à ce moment-là.
C'est parti, la rumeur, qui ça étonne encore.
Car tout porte à croire que les Tiégars ont toute la France contre eux et bien avant que ça reparte.
Et on a noyé dans des lits d'essence le souvenir borgne de l'innocence, en équilibre sur un fil de feu, comme une corde à pendre au cou des fourgons bleus. C'est ni le pied ni la gloire qu'on tout crame, c'est même pas une réponse à la hauteur du drame. Mais c'est comme ça, c'est tout ce qui reste, quand le quartier fait même peur à la peste. Ma vie, mon cœur ne flanche pas, mon père, ma mère ne pleurait pas. Si on se jette dehors avec le diable au corps, c'est qu'on refuse de vivre sans honorer nos morts.
Car tout porte à croire que les Tiécars ont toute la France contre eux. Et bien avant que ça reparte en queue, qui ça étonne encore,
ça étonne encore.
Qui veut nous foutre dehors? Car tout porte à croire que les Tiécars ont toute la France contre eux. Et bien avant que ça reparte en queue, qui ça étonne encore,
qui ça étonne encore.
Qui veut nous foutre dehors?
On n'a pas rendu l'âme, ni les armes. Regarde-moi bien, je suis la preuve que les frères sont craints. Voilà ce qu'on craigne nos mains, ce que l'on sait faire de mieux. Depuis que l'homme a découvert le feu, l'avenir ne me dit rien et c'est réciproque. Les cons des pisses dans leur froc, sais-tu ce que m'évoque la fuite en vrac? Les nerfs au contact des flammes comme des cailloux de crack. Repliés sur nous-mêmes, quitte à trouver seuls des solutions à nos problèmes. Qu'attendons-nous du système, à part ces euros? De loin la pire des gueux de rond.
Car tout porte à croire que les Tiécars ont toute la France contre eux. Et bien avant que ça reparte en queue, qui ça étonne encore,
qui ça étonne encore.
Qui veut nous foutre dehors? Car tout porte à croire que les Tiécars ont toute la France contre eux. Et bien avant que ça reparte en queue, qui ça étonne encore,
qui ça étonne encore.
Qui veut nous foutre dehors?
Ils m'ont parlé des 30 glorieuses, dois-je les avertir que la suite sera laborieuse? Purée, ils n'ont pas fait que jurer notre perte, censurer nos têtes, murer les portes et déclencher l'alerte. Quel sera le prochain à laisser des plumes sur le goudron? Quand pour un frangin abattu, ils diront ce qu'ils voudront. Il n'est plus question de calme, pleurer c'est pas notre cas, mais l'air est au napalm. Qui sont les rats de laboratoire qui vont bouffer du rab? Prisonniers du sous-développement durable, vrais monstres élevés dans les ronces de ces sales races qui n'ont pas les réponses.
Car tout porte à croire que les Tiécars ont toute la France contre eux. Et bien avant que ça reparte en queue, qui ça étonne encore,
qui ça étonne encore.
Qui veut nous foutre dehors? Car tout porte à croire que les Tiécars ont toute la France contre eux. Et bien avant que ça reparte en queue, qui ça étonne encore,
qui ça étonne encore.
Qui veut nous foutre dehors?
97, 2007, déjà 10 piges que la rumeur vous jette le tort. Qui ça étonne encore,
hein?
Alors encore plus fort pour encore plus de Delport.
Le 26 janvier à Paris, ils étaient des milliers à se rassembler en un jour de colère. Un paquet de gens en colère contre le gouvernement grotesque qui nous dirige. Un paquet de gens, dont une partie sans doute, écœurée par le vertige libéral, par cette valorisation économique de tout, qui fait qu'au final, plus rien n'a de valeur. Mettre en colère, ça ne suffit manifestement pas. On peut être très en colère et aussi très con, mais aussi très seul ou encore avoir une vie de merde. On peut même se défouler et que cette vie soit toujours aussi merdique après. Ils sont en colère, soit. Et de ce mouvement explosif que nous sommes nombreux à ressentir, ils en appellent directement à la froideur, à la rigidité, à la conservation. Un monde prévisible, bien ordonné, où une femme reste à sa place, les étrangers chez eux et les flics dans la rue. Définir ce qui doit être, universellement. Ils en appellent à des lois toujours plus strictes et des organes répressifs toujours plus présents. Et pour cela, bien sûr, ils ont infiniment besoin de celui-là même qui cause leur colère, le gouvernement. La situation actuelle est difficilement compréhensible. D'un côté, on n'a jamais été aussi méfiant vis-à-vis des politicards, de l'autre, trop rares sont ceux qui croient vraiment qu'on puisse se passer d'eux. D'ailleurs, ceux qui sont le plus entendus sont souvent ceux qui brillent par la pauvreté de ce qu'ils proposent. À l'image de Dieudonné, qui s'indigne contre le système et vous incite tout au plus à signer une pétition antisémite. À l'image de tous les candidats à toutes les élections qui se renvoient la balle et nous resservent toutes sortes d'arguments frelatés et de propositions déjà vues pour qu'au final tout se répète. La crise, le travail, l'endettement, les flics. À l'image des catoréacs qui veulent nous enfermer à nouveau dans la famille, l'école, l'armée, pour nous sauver des méfaits du libéralisme et de la gauche. Aujourd'hui, il faut que nos vies changent, et pas que la politique change. Il y a une colère qui n'a pas peur de son explosion. Elle est celle qui brise les portes et les murs pour découvrir ce qui s'y cache. Une colère qui abolit la peur de l'autre, de la rencontre, de l'expérience nouvelle, et de la transformation de ce qui nous entoure et de ce que nous sommes. Il est possible qu'en explosant, cette colère emporte avec elle les frontières qui nous séparent, l'ordre moral qui nous conduit et les caméras qui nous surveillent. Il est possible qu'en explosant, cette colère nous rapproche, nous inspire l'envie de se trouver, de puiser dans le futur, dans le passé, ailleurs, l'inspiration nécessaire à se faire ensemble une vie meilleure. Cette colère-là se moque bien du gouvernement, car ce qu'elle appelle, nous pouvons le construire nous-mêmes. Des espaces et des amitiés sans identité française, des coups de foudre qui ne font pas bon genre, ou encore des initiatives, comme cette fête, qui n'ont besoin de l'accord d'aucune autorité pour nous réunir. Le 5 avril, Alors que le jour de colère voudrait de nouveau prendre la rue, nous appelons à une grande fête sauvage, comme une rencontre de tous ceux qui ne sont pas dans les clous et qui ont la rage contre ceux qui voudraient les y faire entrer.
Merci Jack. Voilà, c'est une petite lecture d'un des appels à la journée du 5 avril. Et du coup, vous pouvez retrouver les textes, les affiches, même des émissions de radio, plein de choses, plein de contenus qui sont rattachés avec cette journée sur le blog 5avril.noblogs.org. On a déjà un peu discuté de qu'est-ce que c'était le jour de colère des fachos, des réacs, etc., qui nous faisaient face. Et on voulait revenir peut-être un peu plus précisément sur justement à la fois qu'est-ce que c'était, qui c'était les personnes qui organisaient ça, même si on n'a pas énormément d'informations très précises là-dessus, et surtout peut-être discuter, débattre un petit peu sur quelles sont justement les ambiguïtés de cette colère-là, quelles sont les nouvelles formes que prend cette extrême droite et comment elle peut être proche à des moments dans ce qu'elle rejette ou dans ce qu'elle critique de ce que nous aussi on peut rejeter et du coup de voilà percevoir un peu ces ambiguïtés là pour affirmer clairement qu'est-ce qui nous distingue d'eux et surtout quel horizon vers quel horizon on tend un petit peu voilà
pourquoi ils ont tort quoi.
Du coup, on a déjà dit un peu qu'il y avait cette espèce de mélange bizarre entre l'ultra-droite, les ultranationalistes et les dieudonistes un peu quoi. Du coup, sur la base de mots d'ordre comme la liberté d'expression ou peut-être sur un espèce d'antisémitisme ou une espèce de rejet un peu des élites. Et du coup, je vais en dire un peu plus à partir de je ne cache pas mes sources d'un blog qui s'appelle Droites Extrêmes, qui est une espèce d'observatoire des extrêmes droites et qui est relié au journal Le Monde. Du coup, je pense que les colériques, les coléreux, les sorales, les dieudonistes, et etc., m'accuseraient de faire le jeu du complot sioniste ou je ne sais quoi en me servant du monde pour essayer d'identifier qui ils sont. Mais bon, passons. Et du coup, ce qui se dit dans cet article dont je me sers, c'est que il y a un groupe qui s'appelle l'Action Française, donc qui sont des royalistes. C'est sûrement le groupuscule le plus vieux de toute l'extrême droite. Donc des royalistes qui est donc un groupuscule qui a été créé au 19e siècle, qui ont pas mal structuré déjà le printemps français et dont les locaux ont servi un peu derrière base logistique pour l'organisation du jour de colère. Voilà, et du coup il y a dans le rassemblement du 26 janvier et probablement dans les petits rassemblements de ce week-end, il y avait énormément de groupuscules qui sont je sais pas comment dire, mais voilà, qui ont des pratiques qui sont un peu émeutières, quoi, on va dire, qui ont tout un imaginaire, on l'a vu dans les affiches qu'ils ont pu produire, qui crée un peu le trouble justement dans leur rapport à la police, à l'autorité, etc. On a pu entendre dans l'enregistrement que voilà, il y avait les putschistes, quoi, ceux qui appelaient l'armée, ceux qui voulaient remettre l'avenir de la France dans les mains de l'armée, de la police, des gendarmes, etc. Mais il y a aussi tout un imaginaire anti-flic, un imaginaire un peu émeutier, surtout défendu par les nationalistes nationalistes autonomes et toute une génération un peu de jeunes quoi rassemblés par exemple autour du bloc identitaire voilà et du coup ça nous a pas mal interpellé dès le mois de janvier parce que ils appelaient à la constitution d'un black bloc de droite. Donc en faisant appel aux hooligans, aux patriotes, à tous les gens un petit peu énervés et qui se reconnaissaient pas dans l'imaginaire rose bonbon comme ils le disent de la manif pour tous et du coup ça crée un peu le trouble sur justement ce rapport au gouvernement et ça a fait débat dans l'organisation un peu parmi les gens qui ont participé à l'opposition au jour de colère hier, de savoir justement si oui ou non, quel était exactement le rapport avec l'autorité, avec le gouvernement et dans ce qu'ils proposaient et dans leur perspective politique. Peut-être vous voulez dire un mot là-dessus, justement sur ce rapport au gouvernement, à la loi, etc.
Ouais, parce qu'il y a un imaginaire révolutionnaire quoi qui est présent dans plein d'affiches et puis dans plein de textes en fait. Je pense qu'il y a autour du jour de colère. Tu disais que ils en appelaient enfin à des pratiques émeutières, etc. Mais ils font plein d'affiches sur la révolution, l'insurrection, etc. Du coup, ça effectivement, ça émane plutôt de certains groupes particuliers autonomes quoi. Mais moi, j'ai l'impression que ça reflète qu'effectivement il y a une pratique assumée de certains affrontements dans la rue, de putsch militaire, de je sais pas d'un certain niveau de violence éventuellement quoi, mais qu'il y a une idée de la révolution chez eux qui est quand même hyper bizarre quoi, parce que essentiellement je pense le mouvement jour de colère il aspire pas du tout à quelque chose qui serait de l'ordre d'une insurrection générale ou quoi que ce soit quoi, et plutôt leur mot d'ordre c'est toujours de s'adresser au gouvernement quoi, toujours d'en appeler à une entité qui enfin, d'où émaneraient des lois qui permettraient une meilleure société, quoi, une chose comme ça.
Il y a toujours une médiation de leur action, c'est-à-dire qu'eux-mêmes ne sont jamais vraiment les dépositaires de leur action en propre, quoi, mais ils appellent toujours effectivement à quelqu'un qui pourrait, une autorité qui pourrait médier leur action et permettre qu'elle s'applique, que leur volonté s'applique. Quoi. Mm-hmm. Il y a une espèce de truc un peu comme ça, étrange. Quoi.
Là, je pense qu'ils n'ont pas du tout de pratique autonome, en fait. Ils veulent pas du tout se débarrasser du gouvernement, en fait. Là, ils arrêtent pas de balancer des trucs sur le gouvernement, d'exiger qu'il dégage ou je sais pas quoi. Mais en fait, c'est vraiment dans l'optique de remettre un autre gouvernement en place, parce que c'est quand même des gens, et ça, c'est vraiment, je pense, assez consensuel entre eux, parce que je pense qu'ils ont plein de débats sur d'autres trucs, mais ça, c'est vraiment la base qui les rassemble tous. Où c'est des gens qui veulent un certain ordre, quoi, une certaine discipline, quelque chose de vraiment cadré, quoi. Et du coup, à part des groupuscules qui s'organisent de façon autonome, tous les autres, ils en appellent à des législations.
C'est ça qui est frappant aussi, que ce soit dans les groupuscules d'extrême droite ou même chez les dieudonistes, c'est la pauvreté de ce qui est proposé, quoi. C'est-à-dire que les perspectives politiques, elles sont vraiment assez faibles, quoi. Et ça me fait penser aux prémices un peu du fascisme italien. C'est-à-dire que au lendemain de la Première Guerre mondiale, du coup, l'Italie, elle est comme tous les pays d'Europe, elle est un peu en ébullition, quoi. Il y a une espèce de crise politique généralisée. Il y a pas mal de grèves en Italie. Il y a pas mal de grèves ouvrières, de grèves dans les campagnes où il y a des petits paysans qui se mettent à se rebeller contre les propriétaires, qui font des maisons des ouvriers, des coopératives agricoles, etc. Et puis ce mouvement-là est réprimé, s'essouffle un petit peu, et en même temps qu'il commence à s'essouffler, c'est le début de constitution des premiers faisceaux de combat fascistes, donc emmenés par Mussolini qui était lui-même un socialiste radical révolutionnaire, enfin nationaliste révolutionnaire au départ. Et du coup les faisceaux de combat, ça coagule un peu différents gens, un peu différentes personnes aigries, des chômeurs, des petits bourgeois en échec, et beaucoup d'anciens combattants et de nationalistes un peu nostalgiques. Et du coup ça participe cette ébullition un peu bordélique où voilà, eux ils ont une espèce de passion, les primo-fascistes, ils ont une espèce de passion pour l'action, pour la guerre, pour les armes, etc. Et du coup c'est au début leur colère, leurs actions, elles sont pas très clairement orientées comme elles le seront plus tard contre le mouvement ouvrier, etc. Et du coup il y a une espèce de haine des élites, d'anti-parlementarisme comme il y en a aujourd'hui, de participation à une espèce de bordel ambiant, on sait pas trop où est-ce que ça va. Et puis petit à petit ils se rapprochent, du coup ces faisceaux de combat, ils se rapprochent des patrons, ils se rapprochent du capitalisme, parce que les capitalistes, les patrons, etc., ils voient une opportunité de diviser la gauche, de reprendre le contrôle de la situation. Du coup ils vont se mettre à être financés par ces patrons, par ces industriels, etc., et tomber dans une espèce d'opportunité communisme politique complet. C'est-à-dire que Mussolini va, sa ligne politique, ça va plutôt plus du tout être celle du départ, à savoir une politique à la fois progressiste, socialiste et à la fois nationaliste. Quoi, ça va juste devenir prendre le contrôle, faire grossir le rang de ses partisans, etc. Et puis prendre le pouvoir. Quoi. Du coup. Enfin, je faisais juste le parallèle parce que voilà, il y avait cette situation un peu de bordélisation, un peu de critique du pouvoir, de critique des vieilles élites, du vieux fonctionnement, du vieux système, etc. Et sans perspective, enfin avec, c'était pas sans perspective claire. Pour le coup, c'était plutôt une espèce d'amalgame entre un truc socialiste et un truc nationaliste, etc. Et puis une dissolution de un peu de la ligne politique vers un opportunisme un peu et puis prise de pouvoir, quoi. Et puis une reconstitution. Enfin, puis après l'histoire qu'on sait, quoi. Où l'émergence d'une espèce de dictature extrêmement hiérarchisée, militarisée, etc. Quoi.
Après, t'as dit qu'il y avait une pauvreté de ce qui était proposé ou un truc comme ça. Et c'est vrai et c'est pas vrai. Enfin, genre, je pense pas qu'ils ont pas d'idée de quel monde ils souhaiteraient, quoi, ces gens-là. Quoi. Je pense qu'il y a vraiment une idée très claire, éthiquement, d'un rapport... hiérarchisé, très bien construit, d'une société où tout est bien ordonné, quoi. Et si c'est pauvre, c'est juste parce que ça a déjà fait été un milliard de fois, parce qu'ils inventent rien du tout, en fait, qu'ils proposent juste un espèce de retour.
Ouais, de retour en arrière, très clairement.
Ouais, mais bah oui, c'est vrai.
En tout cas, c'est parce que je reviens, je dis ça parce que c'est exactement ce qu'il y avait dans l'enregistrement. Il y avait pas mal justement de ces jeunes lycéens qui disaient, mais en fait, c'est hyper bizarre parce qu'ils reconvoquent des figures du passé, là, de la famille. Du catholicisme, enfin de voilà ces choses-là, de la religion comme on l'a pratiquée il y a 50 ans en France, là, de la religion catholique, enfin voilà, et que et voilà, il disait ça un peu.
Mais je pense que c'est vrai, mais si c'est pourrave, quoi, qu'il se réfère à des figures du passé, c'est pas tant pour parce que nous on serait du côté du progrès ou je sais pas quoi, mais que pour dire que c'est des vieilles solutions, qu'on sait très bien à quoi elles mènent, que ça a déjà été tenté mille fois, que ça ouvre rien du tout, que ça c'est pas du tout désirable.
En même temps, c'est
hyper clair. Ils inventent rien, quoi, ouais. Tu vois.
Mais dans la vidéo au début, c'est hyper clair. Ils en appellent au coup d'État, ils disent vivement le putsch, etc. Ils remettent, enfin, ouais, y a toute une partie. Ces gens-là qui remettent complètement leur pouvoir, leur liberté d'action, leur tout entre les mains, c'est voilà, des flics, des armées, voilà. c'est la figure du père qui revient, en fait, de cette espèce de figure d'autorité là qui rendrait la vie plus simple parce que tramée, parce que dessinée et avec des choses applicables à chaque voilà.
Ah, je pense qu'il y a un vrai désir de simplicité, quoi, que juste on te dise ce qu'il faut faire avec des valeurs un peu fortes comme ça, bien ancrées, auxquelles tu peux croire, comme je sais pas, le patriarcat, le fait d'être une femme, la famille, l'armée, la France, je sais pas quoi. Et après, la vie est facile, quoi. T'as plus qu'à suivre des petites cases comme ça. Il n'y a jamais rien qui se passe, quoi. Tout est évidemment tracé à l'avance, je sais pas.
Il y a une des personnes dans le reportage qui disait ça, effectivement, que les gens d'en face, en fait, ils ont peur. Enfin, c'est juste le reflet de leur peur, là, les espèces de rassemblement, là. C'est peur de, d'une certaine inconnue, quoi. Par exemple, autour de la famille, là, de ce que ça peut cristalliser une famille homosexuelle, là, qui a un enfant, etc. Enfin, cette espèce de peur d'inconnu, de se dire, mais merde, ça se trouve, en fait, ça va faire des espèces d'enfants complètement bizarres. Enfin, voilà. Et ouais, c'est sûr que ça a l'air d'être un peu ça, quoi.
Ce qu'on disait tout à l'heure aussi, quoi, que, enfin, tout à l'heure avant l'émission, qu'en même temps cette peur, elle est vraiment, enfin, elle pourrait très bien être créée par l'ultra-libéralisme aujourd'hui, qui fait que plus rien n'a de valeur, en fait, que tout juste, je sais pas, tout, que l'économie a pris le pas, en fait, sur quelque chose qui serait d'ordre éthique, enfin, sur des croyances, sur des affects, etc., quoi. Et que du coup, il y a plus rien qui se vaut. Un ami fait Facebook égale un autre ami Facebook. Enfin, cette espèce de truc où on peut se marier, divorcer, c'est le même geste, auprès des mêmes gens, et où du coup, il y a plus rien auquel vraiment se raccrocher, quoi. Puis, enfin, nous, c'est une critique qu'on fait aussi souvent dans cette émission, qu'on comprend très très bien, quoi.
Ouais, c'est-à-dire qu'il y a un espèce de fond commun, avec eux, qui est de l'ordre de la critique du capitalisme, la critique de la mondialisation, de certaines formes d'hégémonie de l'économie, etc., et qui fait que c'est difficile aussi à saisir dans toutes ces formes, cette extrême droite là, radicale, ces mouvements réactionnaires, parce que Je lisais avant l'émission aussi une espèce d'enquête sur un lieu de vie voilà qui se réclame de l'écologie, de la proximité avec la nature, de la défense des traditions voilà, en Franche-Comté, etc. Et du coup, sous couvert d'un retour au local, d'un retour à une réappropriation autonome de capacité à se nourrir, à construire des choses, à faire des projets collectifs. En fait, ce groupe-là, en Franche-Comté, il y en a aussi dans le Morvan, en Bourgogne, etc. Il y en a un peu partout, quoi. Il est aussi directement connecté avec toute l'extrême droite nationaliste, réactionnaire, etc., quoi. Et du coup, j'ai l'impression que une partie d'entre eux aussi, ils servent voilà de cette espèce de lassitude qu'a créé le règne de l'économie, le règne du libéralisme, quoi, et que il y a certaines formes, une espèce de retour au local, réappropriation de certaines techniques pour se nourrir, etc., qui peut être commune, qui peut mm-hmm. et où il s'agit d'arriver à allier ces choses-là avec d'autres pratiques pour créer un front un peu une politique un peu plus claire.
Mais il y avait tout dans l'émission de Terrain Vague il y a quelques temps, là aussi il y avait toute un décortiquage là du discours justement des gens à Calais, là c'était une émission sur Calais, des gens de Sauvons Calais qui est donc une organisation facho là contre les migrants sans papiers, etc., vraiment. Et qui a exactement ce discours là, quoi, ce discours social de dire effectivement le libéralisme détruit les liens entre nous, détruit complètement, enfin voilà, c'est les banquiers qui ont le pouvoir, etc., mais qui sous couvert de ça avait un discours clairement fascisant de dire il faut que le travail soit pour les Français, enfin etc., etc. Mais on retrouve ces ambiguïtés-là et ces lignes de...
J'ai l'impression que ce qu'on voyait exploser un peu hier dans nous, notre rassemblement, quoi, c'est aussi, je sais pas, une autre réponse à ce flou libéral-là, quoi, que, enfin, c'était aussi une critique de ce libéralisme-là, quoi, et que ça déployait aussi d'autres réponses à ces trucs-là, quoi, une certaine éthique, tu vois, de comment est-ce qu'on doit se comporter les uns avec les autres, enfin, pas comment, ouais, je sais pas. Aussi une certaine manière de s'organiser d'une façon autonome en disant juste on n'a pas besoin du gouvernement, on trouve ça, enfin tu vois, c'est clairement nos ennemis ces gens-là, et du coup on s'organise autrement. Du coup c'est pour ça qu'il y avait de la bouffe pour je sais pas, si on veut faire une grande fête à 400 et qu'on veut tous manger, on n'a pas besoin de thunes, du coup il y avait un grand repas gratuit. Si on veut pouvoir faire la fête, on n'a pas besoin de boîte de nuit, juste voilà, on n'est pas obligé de faire la fête le samedi soir entre 9h du matin et 2h du matin comme on nous le dit, mais juste sentir un peu, je sais pas, un autre rapport à la ville, un autre rapport à ce qu'on aimerait vivre, etc., quoi. Et qui pour moi est aussi une autre réponse à juste ce libéralisme-là, quoi. De juste vivre autre chose, quoi.
Ouais, une espèce d'alliance entre une passion pour le désordre, quoi. On aime bien désorganiser un peu, comme on disait, tous les flux habituels qui traversent la ville, et puis aussi tentative d'organisation commune, quoi. Et du coup, pour on s'achemine doucement vers la fin de l'émission, on va vous passer quelques extraits musicaux pour illustrer un peu ce que jour de colère ça peut vouloir dire aussi. Du coup, le premier extrait, tu peux nous le présenter, Zach?
Allez, c'est le
bail. Il reste 5 minutes.
Peut-être qu'on passera qu'un seul extrait.
Je pense que tu peux expliquer et après on lance la musique.
Ouais,
et
complètement,
on se quitte.
Ok. C'est le Dai Irae, donc de on a qu'à mettre Verdi, qui est voilà un auteur, bon, compositeur que j'imagine vous connaissez un peu, italien, etc. Et le Dai Irae, c'est un des morceaux, un des passages d'un requiem, là, le requiem qui est la messe des morts chez les catholiques. Et le Dai Irae, c'est un des poèmes de ce requiem, et qui vient annoncer l'apocalypse, le retour de Jésus, etc. C'est la colère de Dieu au dernier jour, et le Dai Irae, c'est donc le jour de colère. C'est pour ça qu'on vous le passe aujourd'hui, là.
Le moment où Dieu revient sur terre. Et...
voilà, et c'est l'apocalypse, quoi. Il tue tout le monde. Voilà. Et on peut vous passer cette musique.
Thank you.
Ok, vous êtes bien dans Vacarme en Réunion, c'est la fin de l'émission. On est un peu désolé pour le côté quelque peu brouillon de cette heure de direct qui était consacrée donc au rassemblement jour de colère et anti-jour de colère, la grande fête pour empêcher le jour de colère de proliférer dans les rues de Dijon et dans les autres rues de France. Voilà, donc c'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis.
Ouais, toute on l'émission a quelques... sera en ligne sur tvnr.noblogs.org.
Si on arrive à retrouver le montage, on vous le met aussi.
On le met sur le blog, ouais, exactement.
C'est possible de le retrouver.
Ouais. Et moi, j'avais juste un dernier message pour dire que hier, il y a une jeune fille qui s'est pris un coup de matraque sur la tête pendant la manifestation et que les gens du 5 avril, là, ils cherchaient à la joindre pour savoir si tout allait bien, pour savoir si elle avait eu des problèmes avec la police ou je sais pas quoi après. Et du coup, si quelqu'un la connaît, si quelqu'un qui était hier la connaît, elle pourrait écrire à 5 avril, donc 5 en chiffres, avril, at riseup.net. Voilà.
Et bah, à bientôt.
À bientôt, au revoir.
Salut.
Salut.
Ciao.